Bienvenue à vous tous qui êtes venus pour vivre et partager et animer notre culte de Noël. Nous venons de vous interpréter un cantique allemand intitulé « Welche Jubel, welche Freude bringt die frohe Weihnachtszeit ». Quelle ambiance animée et quelle joie apporte l'heureux événement de Noël. Notre culte de ce matin nous servira également de répétition pour notre intervention cet après-midi à la maison de retraite de La Marche. Que chacun ici présent se sente à l'aise, même si vous ne restez pas après le culte. D'avance, merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation de cette journée où nous fêtons la naissance de Jésus en Palestine, à Bethléem. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles ce matin pour fêter l'événement de ta naissance, toi le Fils de Dieu, venu du ciel sur la terre, pour nous montrer le chemin qui mène au Père éternel. Merci pour ta parole qui nous interpelle et nous révèle qui tu es et ce que tu attends de chacun de nous. Merci Seigneur pour la présence des uns et des autres pour ce temps passé ensemble. Nous te remettons également nos sœurs et nos frères qui n'ont pas pu se joindre à nous pour différentes raisons. Fais-leur sentir ta présence, entourés de ta bonté et de ta paix, là où ils sont. Amen. Place à la musique et à la danse. Merci à Sophie. Merci à Sophie. Marie-Noël nous présentera la suite du programme.
Yeah. Nous allons poursuivre par la lecture d'un poème. Nathanaël va donc s'occuper de la projection. C'est une lecture par Jean-Louis Marie-Noël et une mise en scène par Nathanaël.
Il était un empereur.
Il était un enfant.
L'empereur passait son temps à compter et à recompter les hommes, les animaux, les choses.
L'enfant, lui, prenait son temps. Il prenait le temps de sourire aux bergers, aux moutons, aux anges.
L'empereur possédait tout. Mettez les hommes en ordre de guerre. Je ne veux voir qu'une seule tête. Comptez-vous. Et il dictait. Et les gens regagnaient leur ville d'origine, comme on rejoint sa caserne et son régiment.
L'enfant, lui, n'avait rien. Il n'avait rien en commun avec la terre de l'empereur. Pas même une place dans la maison commune. Mais autour de lui, les hommes de bonne volonté venaient se mettre en ordre de paix.
L'empereur voulait compter, enfant.
Mais l'enfant ne se laissait pas compter. Pas plus qu'il ne s'en laissait compter. Son pays était celui des animaux et sa maison une mangeoire. L'enfant souriant, s'offrant en nourriture à tous les affamés de paix, à tous les yeux brillants, des assoiffés d'amour, à tous les ventres creux de joie.
L'empereur n'avait jamais faim. Repu de pouvoir, l'estomac lourd de tous les peuples soumis, de tous les pays conquis, il dormait sur des chiffres.
L'enfant lui ouvrait les yeux sur un monde tout neuf, où les pauvres devenaient riches de vie, où les prisonniers, les emmurés, se retrouvaient libres, où les aveugles se mettaient à voir et les sourds à entendre.
Et l'empereur s'évanouissait dans l'ombre éternelle. Et une étoile se levait pour guider les quêteurs de vérité vers une aube sans fin. Il n'y avait plus d'empereur.
Il y avait un enfant pour tous les hommes. Pour tous les temps.
C'est Noël.
C'est Noël. Alors maintenant, je pense que c'est le moment opportun d'entrer dans la louange et de chanter « Il est né le divin enfant ». Donc on va enchaîner les trois chants. Donc « Il est né le divin enfant »,« Venez mes enfants et les anges dans nos campagnes ». Avant de poursuivre avec un petit conte. Donc on va poursuivre. Avec Voici Noël, ô douce nuit, cachons un
les garçons et un mari vont illustrer ça avec un conte. Et ensuite, on aura un moment musical juste après le conte avec Salomé. Il y a juste. Je demande aussi à Edith, du coup, de venir donner ce qu'elle a donné. Magnifique. C'était la nuit. Le feu crépitait, nerveux. Deux bergers brûlaient de colère. Au-dessus des pâturages de Bethléem, le ciel était dégagé. Les étoiles semblaient proches, comme si elles s'étaient intéressées au débat qui faisait rage entre les deux hommes.
C'est beau! Cette peau me revenait de droit. C'est moi, l'aîné.
Arrête de ressasser cette histoire. Déjà avant de mourir, notre père me l'avait confié.
Les autres bergers se tenaient à l'écart, lassés d'entendre ces deux rancuniers batailler sans cesse pour un héritage bien modeste. Leur père, le vieux Babouk, avait gardé comme un précieux trésor la peau d'un bélier qui était né le même jour que lui. Un animal robuste, le chef du troupeau, capable d'écarter plus d'un prédateur. Et puis, il avait fallu abattre le bélier trop vieux. L'enfant avait protesté, mais finalement, c'est la magnifique toison de l'animal qui avait séché ses larmes. Dès ce moment, cette peau était devenue pour lui comme un porte-bonheur, une protection contre les malheurs. Quand le jeune Barouk veillait le troupeau de la nuit, il s'enveloppait de cette peau. Rassuré, il se sentait la même ardeur que son vieux bélier. Et puis, au fil des années, quand l'expérience de la vie avait rendu le vieux berger moins superstitieux, cette peau était devenue la relique d'heureux souvenirs. Sa jeune épouse s'y était réchauffée, leurs deux petits garçons y avaient reposé, paisibles. Frissonnant de fièvre, c'est dans cette peau qu'ils guérissaient. Le vieux père y avait caché ses larmes au décès de son épouse. Et finalement, rassasié d'années, le faible Barouk avait vu comme une évidence de laisser cette peau au préféré de ses fils, le cadet. L'aîné n'avait rien dit, mais la rancœur couvait, comme des braises cachées sous la cendre. Après le temps du deuil, puis des règlements de compte, voilà bien 10 années que leur mésentente lassait la compagnie des bergers. 10 années qu'ils s'évitèrent rageusement. Mais cette nuit-là, ils n'avaient pas eu le choix. Manque de main-d'œuvre, troupeau trop grand, prédateurs aux aguets, fauves ou voleurs. Les retrouvailles suintaient entre eux comme une vilaine blessure infectée. Les deux frères étaient donc là, près du feu tremblant entre leurs deux colères. L'aîné écœuré avisait la peau de bélier que son cadet portait fièrement sur les épaules. Et l'amertume leur faisait comme une ivresse, un tourment qui les isolait des autres. Si bien que les deux bergers maussades n'avaient pas vu la nuit s'illuminer au son des chants angéliques. Par contre, ils avaient retenu qu'un roi de justice était apparu dans la région, la belle aubaine.
Allons lui présenter notre litige. Je suis sûr qu'il me jugera à la juste valeur. Cette peau, tu me la dois.
Ah oui, tu verras, il te rira au nez. Ce roi, s'il est vraiment juste et intelligent, il t'affirmera que cette peau m'appartient.
Il s'était donc mis en chemin avec la compagnie des bergers. La surprise étouffa leur jacassement quand ils découvrirent que le roi les attendait dans une misérable étable. Ils tombèrent à genoux quand ils comprirent que leur justicier était ce nouveau-né, grelottant dans les bras de sa petite mère épuisée. Les deux frères ennemis se tenaient maintenant coude à coude, pétrifiés de honte devant le désarroi du jeune père, incapable de réchauffer l'endroit. L'impensable alors se produisit. Le cadet ôta la chaude peau de ses épaules. L'aîné se redressa. Chacun retenait son souffle. Ensemble, ces deux grondeurs s'avancèrent. La peau était assez large pour envelopper la mère et l'enfant. D'un geste unanime, ils l'offraient. C'est alors qu'un second miracle eut lieu. L'espace d'un instant, ils virent la grotte illuminée du scintillement de dizaines d'anges qui entraient et sortaient, pressés de voir ce nouveau-né. Les bergers levèrent les yeux au ciel. Ils en virent des milliers, comme si les myriades d'étoiles dans le ciel dansaient de joie. Les bergers tendirent l'oreille. Le vent faisait comme un chant puissant et rassurant. C'est ce geste de bonté qui leur avait ouvert les yeux sur l'invisible.
Bonjour Jacques.
à lire ou à écouter Luc 1, verset 46 à 56. C'est l'histoire de Marie et sa rencontre avec Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Également, Zacharie, après la naissance de Jean-Baptiste, annonce la venue du Sauveur et le rôle de Jean-Baptiste qui vient de naître. Donc Luc 1, verset 68 à 80. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, Jean-Baptiste, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de paix. Et maintenant, le récit qui nous intéresse. Luc 2, versets 1 à 19. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant à Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Aujourd'hui, demain, nous fêtons l'événement de la naissance de Jésus, mis au monde par Marie. Jésus, le Messie annoncé, le Fils de Dieu, venu partager pendant quelques années notre condition humaine. A priori, nous ne fêtons pas son anniversaire. Parce qu'il est peu probable que Jésus soit né le 24 ou le 25 décembre de l'an 0 de notre calendrier. C'est même tout à fait illégal. Ce calendrier dit grégorien que nous utilisons actuellement n'a été adopté qu'au XVIe siècle, apparemment le 15 octobre 1582. Et son usage s'est progressivement étendu à l'ensemble du monde au début du XXe siècle seulement. Mais grâce à ce calendrier, nous apprenons les dates avec un comptage avant la naissance de Jésus-Christ et après la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, de manière convenue, nous sommes le 24 décembre 2017, après la naissance de Jésus-Christ. L'élément intéressant de cette réflexion sur le calendrier est le fait que la naissance de Jésus s'inscrit dans le déroulement de l'histoire du monde, dans le déroulement de l'histoire de l'humanité. Nous venons de lire un texte appelé le Magnificat et qui désigne le cantique chanté par Marie lors de la visite qu'elle rend à sa cousine Élisabeth, enceinte, elle, de Jean-Baptiste. Ce texte fait référence à de nombreux renvois à l'Ancien Testament sous forme de citations directes ou d'allusions. Ce texte rappelle notamment la prière d'Anne, la mère du prophète Samuel, Samuel 2, verset 1 à 10, et à Abraham, à qui Dieu a fait une promesse de bénédiction de portée universelle. Nous pouvons relire cette promesse en Genèse 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et oui, la naissance de Jésus s'inscrit dans le cours de l'histoire. Et l'événement que nous fêtons aujourd'hui est un élément essentiel et indispensable du plan de restauration de la création révélé par la parole de Dieu. Sans entrer dans les détails, la Bible décrit la relation que les hommes et les femmes peuvent entretenir avec notre Créateur. La Bible nous révèle ce que Dieu offre à l'humanité et ce qu'il souhaite pour elle. Dieu respecte la liberté de l'humanité de choisir individuellement et collectivement d'entrer dans son plan de restauration et de salut, ou de rester en marge de ce plan. Adam et Ève ont choisi de s'affranchir de ce que Dieu leur avait interdit, alors qu'ils étaient paisibles et tranquilles dans le jardin d'Éden. Caïn et Abel se sont entretués pour des broutilles, et dès Genèse 6, les versets 5 à 7, le genre humain vire à la catastrophe. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Le déluge élimine les méchants, et un nouveau départ peut se faire. Genèse 8, les versets 21 et 22. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Nous voilà bien éloignés de Noël. Et pourtant, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre en chair et en os, s'inscrit parfaitement dans l'histoire et dans le plan de Dieu pour restaurer la création, pour réconcilier l'humanité, pour retrouver la paix et la tranquillité originelle de la création. La Bible nous révèle que Dieu a choisi un homme, Abraham. Il lui promet que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité parce qu'il a obéi à sa voix. Genèse 22, verset 18. Génération après génération, Dieu se révèle. du temps de Moïse, qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et qui a reçu les 10 commandements directement de la part de l'Éternel. Dieu se révèle. Du temps des juges, à la tête d'Israël, lors de la conquête de la terre promise. Dieu se révèle. Du temps de David et Salomon, roi d'Israël, est imprégné de la force, de la puissance et de la sagesse divine. Dieu se révèle. Du temps des prophètes, qui ont réussi à récupérer de justesse une partie du peuple élu qui ne cessait naturellement de s'éloigner de Dieu, d'oublier sa présence et d'oublier sa volonté à leur égard et les obligations qui en découlent. Au moment de la naissance de Jésus, à vrai dire, une fois de plus, le peuple d'Israël est à la dérive. Plus de 400 ans séparent les derniers événements et la dernière prophétie de l'Ancien Testament des premiers épisodes du Nouveau Testament. Écoutons cette dernière prophétie de Malachie au chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est l'Éternel qui parle, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. La naissance de Jésus, Noël, était annoncée depuis longtemps. Cette naissance est un élément essentiel du plan de Dieu pour la restauration de la création et la rédemption de l'humanité. Ce plan se déroule au rythme de la volonté de Dieu, l'Éternel. La naissance du Messie attendu intervient alors qu'Israël est occupé depuis une soixantaine d'années par les Romains. Hérode, nommé par Rome, était roi d'Israël depuis une trentaine d'années. Jésus, le Fils de Dieu, vient au monde en toute simplicité. Une étable, Marie, Joseph pour l'entourer et le protéger. Un ange qui annonce la bonne nouvelle à des bergers au travail à la belle étoile. Et la multitude céleste qui proclame « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrèrent. » Il y a des choses qui se passent dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui se passent sur terre. À Noël, dans l'étable de Bethléem et dans les champs autour, le ciel et la terre se rejoignent. Cet événement que nous fêtons aujourd'hui est une étape majeure dans la promesse faite à Abraham. La bonne nouvelle de Noël s'adresse à toute l'humanité, à toute la population de toute la terre. Jésus est né, le Sauveur annoncé, celui qui ouvre le chemin pour nous inviter dans la présence de Dieu, malgré nos insuffisances et nos imperfections liées à notre humanité. Amen.
Amen. On peut au minimum affirmer que c'est un temps de fête. Merci pour ce rappel et je vous invite à vous lever pour proclamer cette fête de Noël pour qu'on démarre ensemble.
Donc, vous avez déjà entendu ceux qui sont disponibles et qui peuvent participer, nous irons à la maison de retraite à la marche cet après-midi pour 14h30. Tous ceux qui sont présents peuvent manger sur place, il y aura assez pour tout le monde. Il faut qu'on reparte à 2h moins le quart au moins. Ouais, 13h30, 13h45, il faut qu'on parte d'ici. Ça va le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Dimanche prochain, culte à 10h30, normal. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce culte de Noël. On vous demande pardon pour les imperfections, parce qu'on n'a pas fait de répétition générale. Un joyeux Noël.
Qu'on va vous inviter à chanter. Voilà. On vous souhaite un joyeux Noël.